Nous commençons aujourd'hui la série « Prier à partir des Écritures par la méditation et la contemplation chrétienne » dans la tradition ignatienne. Cette série est l'adaptation française des entretiens en anglais, sur le même sujet, du père Timothy Gallagher, entretien que vous pouvez retrouver sur le site www.discerninghearts.com. Prier à partir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis Vatican II, donc depuis une quarantaine d'années, nous sommes fortement encouragés à pratiquer cette forme de prière, et encore plus aujourd'hui. Vatican II, dans le très beau document Dei Verbum, la révélation divine, parle de la place de la parole de Dieu et encourage tous les membres de l'Église, pas seulement les prêtres, les religieuses et les religieux, mais nous tous, laïcs inclus, à plonger quotidiennement dans la parole de Dieu pour la lire et l'étudier. C'est une composante très importante de notre vie de chrétien. Et c'est justement le sujet que nous allons approfondir dans cette série. Sujet que nous pouvons condenser dans deux mots, méditation et contemplation. On pourrait, à prime abord, penser que ce sont deux mots interchangeables. Mais en fait, nous allons voir qu'il y a des différences importantes entre ces deux formes de prière. Depuis toujours, dans la tradition chrétienne, les auteurs ont encouragé à la méditation. Par exemple, saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, donne quelques éclairages sur cette forme de prière. Vous-même, vous avez probablement une certaine notion de ce dont il s'agit. Et ça vous paraît peut-être à la fois attirant et en même temps un peu mystérieux, et en tout cas grandement associé à la vie religieuse, voire à la vie monastique. C'était certainement ce que moi je pensais avant que ma quête spirituelle ne m'amène à approfondir cette forme de prière. J'étais attirée, mais j'aurais été bien incapable d'expliquer clairement ce qu'est la méditation de la parole et encore moins la contemplation. Peut-être en êtes-vous là vous aussi. Commençons par clarifier la différence entre les deux approches, en nous basant sur ce qu'en dit saint Ignace de Loyola. À son habitude, saint Ignace est pragmatique, simple, clair et facile à comprendre. En simplifiant au maximum pour l'instant, saint Ignace explique que Dieu a doté notre nature humaine d'une variété d'habiletés, parmi lesquelles se retrouvent notre capacité de penser, de raisonner sur les choses, d'une part, et notre capacité d'imaginer les choses, d'autre part. Et ce qu'explique saint Ignace, c'est que ces deux aptitudes, le raisonnement et l'imagination, peuvent être utilisées pour pénétrer la richesse de la parole de Dieu. Et ce faisant, nous permettons à Dieu de nous parler très personnellement, d'une manière qui nous touche et nous transforme en profondeur, comme l'argile entre les mains du potier. Quand nous prions à partir des Écritures, en utilisant notre faculté de raisonnement, nous méditons. Il s'agit de méditation selon la terminologie ignatienne. Et quand nous prions, disons à partir d'une scène de l'Évangile, en utilisant notre imagination, il s'agit de contemplation, encore une fois dans la terminologie ignatienne. Pour la majorité d'entre nous, ça semble intéressant, je crois, mais plutôt obscur, surtout en ce qui concerne la manière de pratiquer ces prières. Avant d'aller plus loin, je voudrais rajouter un point sur la terminologie, pour éliminer un risque de confusion sur les mots méditation et contemplation. Saint Jean de la Croix, et avec lui sainte Thérèse d'Avila, utilise ces mots dans des sens différents. Pour saint Jean de la Croix, la contemplation en particulier est une forme de prière mystique, une grâce réservée à un très petit nombre, très exercé et très avancé. Au contraire, la contemplation au sens ignatien est une forme de prière accessible à tous, du débutant jusqu'à celui qui a une grande expérience de la prière. Il s'agit simplement, si on peut dire, d'entrer dans la parole de Dieu par l'imagination, cette imagination dont Dieu nous a dotés. Et la série que nous entamons aujourd'hui est destinée à tous ceux qui ont ressenti, à un moment, le désir de prier à partir de la Bible, mais qui ne l'ont jamais fait parce qu'ils ne sont pas sûrs d'en être capables, de savoir comment faire, ou parce qu'ils se sentent un peu intimidés. La série est aussi destinée aux personnes qui ont déjà tenté de prier avec la parole, et qui ont trouvé cela difficile. Et quand c'est difficile, on a du mal à persévérer. Elle peut finalement aussi être utile, cette série, à ceux qui prient depuis un moment déjà à partir de la parole, mais qui seraient contents de renouveler leur pratique, d'avoir de nouvelles idées pour approfondir leur expérience de prière. Comme nous l'avons mentionné dès le début avec le texte de Vatican II qui parle de la place des Écritures dans la vie de tous les chrétiens, nous allons aborder dans ce qui suit des choses qui sont fondamentales. Fondamentales au sens de cette phrase qui a rendu Mère Teresa célèbre. Tout commence par la prière. Une phrase qu'elle disait souvent. Je vais vous lire maintenant une citation que nous allons utiliser pour démarrer notre discussion. La voici. Nous pouvons apprendre à connaître le Seigneur par notre raisonnement ou par notre imagination, ou encore plus probablement, par un mélange très personnel des deux approches. Nous voulons connaître le Seigneur pour mieux l'aimer, mieux le suivre. Et c'est ce que nous voulons faire quand nous prions avec la Bible qui est sa parole. Ce que dit cette phrase, c'est que nous pouvons apprendre à connaître le Seigneur, nous pouvons prier avec la Bible, soit avec notre intelligence, soit avec notre imagination. C'est-à-dire que nous pouvons méditer la parole ou contempler la parole, ou comme le suggère cet auteur, nous pouvons combiner les deux d'une façon très personnelle. Revenons d'abord sur la méditation. Nous avons dit que méditer, c'est utiliser notre raisonnement, cette capacité que Dieu nous a donnée, pour pénétrer dans la parole, de façon que Dieu lui-même puisse prononcer pour moi personnellement les mots qui sont inscrits, que Dieu lui-même me révèle comment les appliquer à ma vie, que Dieu lui-même me communique les forces qu'il veut me donner à moi personnellement à travers ces versets particuliers que je suis en train de méditer. Qu'est-ce que c'est que cette capacité de raisonnement dont nous parlons ? Quelqu'un dit quelque chose qui attire mon attention, ou je lis quelque chose qui m'interpelle. Je m'arrête, j'y réfléchis, j'y reviens, j'y repense. Par exemple, « Hâte-toi lentement », un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu. « Festina lente » en latin. Quelqu'un me dit ça. Une combinaison étrange de mots qui me fait réfléchir parce que je sens tout de suite qu'il y a quelque chose de profond qui se cache derrière ces trois mots. Plus je m'y attarde, plus me viennent à l'esprit des pistes de réflexion, d'exemples d'application. Quand je commence un projet, si je me jette dedans sans planification, j'ai l'impression d'aller vite, mais il se pourrait bien que je sois obligée de tout recommencer plus tard, si je réalise que je suis partie dans la mauvaise direction. Par contre, si je commence lentement, si je prends le temps de comprendre le projet, de rechercher l'approche la plus efficace, et si je me lance seulement après ce temps de préparation, je vais probablement atteindre plus rapidement les objectifs. C'est un exemple tout simple de méditation, d'utilisation de ma capacité de raisonnement appliquée à ce proverbe « Hâte-toi lentement » qui m'avait surprise. Faisons maintenant une expérience similaire avec un exemple plus proche du domaine de la spiritualité. Voici une citation d'un autre auteur, juste une phrase. « Il est impossible d'atteindre la sainteté dans le confort, seulement dans les conditions les pires. » Voici encore une phrase assez frappante, dérangeante. « Je me demande ce que l'auteur veut dire. Je m'y arrête, je prends le temps d'y penser. Si je regarde ma propre vie, je vois bien que j'ai traversé des moments difficiles où les conditions n'étaient certainement pas les meilleures, étaient peut-être même les pires. À différents niveaux, ma santé, ma situation financière, mes relations familiales ou au travail. Et en même temps, en relisant ma vie, je prends conscience que c'est dans ces moments-là que je me suis le plus rapprochée de Dieu. Et plus j'y pense, plus je trouve de vérité dans cette petite phrase. Il est impossible d'atteindre la sainteté dans le confort, seulement dans les conditions les pires. Encore une fois, ce que je suis en train de faire, c'est d'appliquer ma capacité de raisonnement à un contenu particulier. Et ce faisant, je le pénètre, je le vois s'ouvrir et je découvre de nouvelles significations, de nouvelles possibilités, de nouvelles applications. Et je suis de plus en plus capable d'introduire dans ma vie ces éléments de vérité que je découvre. Alors, ce que dit saint Ignace, c'est que nous sommes invités à exploiter cette même capacité humaine de raisonnement à la prière à partir des Écritures. Et cette capacité de raisonnement devient la passerelle, la porte d'entrée dans la parole de Dieu, et c'est ça la méditation. Disons par exemple qu'aujourd'hui, je m'alloue du temps pour prier. J'ouvre la Bible et je choisis de prier à partir du sermon sur la montagne. Je commence à lire les béatitudes. Je lis la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et tout de suite, je m'arrête et je m'interroge sur les mots. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres. Jésus semble me révéler qu'il y a une bénédiction, qu'il y a quelque chose de désirable, de spirituellement riche, dans ce qu'il appelle la pauvreté en esprit. Et en approfondissant ma réflexion, je prends conscience que Jésus ne dit pas seulement « heureux les pauvres », mais il ajoute « les pauvres en esprit ». Donc il parle d'une autre pauvreté. Il parle plutôt d'une tendance, d'une attitude, d'une inclination du cœur avec laquelle nous abordons la vie. Pauvreté en esprit. Plus j'y réfléchis, plus je médite, plus le sens de ce que Jésus dit s'enfonce en moi. Plus je réfléchis, plus quelque chose dans mon cœur est ému, touché, et je me sens attiré par cette pauvreté. Et je peux même me surprendre à demander à Jésus cette pauvreté en esprit. Jésus, aide-moi à être pauvre en esprit. Aide-moi à avancer vers une vie de bonheur qui vient avec cette pauvreté en esprit, avec la simplicité et la dépendance à Dieu qui se cache dans la simplicité en esprit. Et tout en continuant à méditer cette parole, je réalise que c'est la première béatitude et que c'est de ces pauvres en esprit que Jésus dit « Ils possèdent le royaume de Dieu ». Comme si Jésus voulait que nous réalisions que notre entrée dans son royaume, notre aptitude à passer la porte de ce royaume, dépend de cette inclination du cœur qu'il appelle la pauvreté en esprit. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous réfléchissons aux mots de Dieu que nous avons lus en utilisant cette aptitude que les humains possèdent de ruminer, remâcher, analyser, repenser à une idée et se faisant d'ouvrir de nouveaux horizons, d'élargir le sens à de nouvelles significations. Et quand cela arrive, quand nous atteignons une nouvelle compréhension, notre cœur s'anime, notre cœur est touché. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que la méditation est simplement une passerelle, une porte. Parce que, ultimement, la prière, ce n'est pas la partie raisonnement. La prière, c'est un cœur parlant à un cœur. Notre cœur parlant au cœur de Dieu, pour utiliser l'expression du bienheureux John Newman. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps que notre esprit voit plus clairement la signification de ce que dit Jésus, notre cœur commence à parler à Dieu. Et la prière devient alors ce que d'autres auteurs appellent un dialogue avec Dieu ou une conversation avec Jésus. Est-ce que vous commencez à saisir cette première approche de méditation? C'est quelque chose de très beau et probablement qu'au fur et à mesure que je le décris, chacun d'entre nous réalise que nous faisons cela depuis longtemps, que nous l'appelions méditation ou pas. Le dimanche, quand nous écoutons la lecture de l'Évangile à la messe, ou que nous sommes attentifs à la première lecture ou au psaume, et que quelque chose de particulier nous interpelle, nous nous surprenons à y réfléchir, à y revenir d'une manière très informelle mais très riche, qui nous parle profondément. Ce que nous faisons alors, c'est de la méditation au sens ignatien. Maintenant, parlons de la deuxième approche, celle que saint Ignace appelle la contemplation. Dans la contemplation, la porte d'entrée, la passerelle vers le cœur de Dieu, ce n'est pas notre capacité de raisonnement, mais notre imagination. Nous possédons 5 sens externes, 5 sens par lesquels nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons. Et pour chacun de ces sens, existe un organe physique de notre corps qui lui correspond. Nous voyons avec les yeux, nous entendons avec nos oreilles, nous touchons avec notre peau, nous sentons avec notre nez, etc. Ce sont nos 5 sens externes. Les philosophes nous apprennent que nous possédons aussi une capacité intérieure de voir, sentir, entendre, toucher, goûter, de sentir les choses même quand elles sont absentes. Et c'est ce que nous appelons notre imagination. Par exemple, si je vous invite à visualiser votre maison, vous pouvez très bien ne pas être à la maison, être dans votre voiture ou au travail, et pourtant vous pouvez facilement voir devant vos yeux de l'esprit, si on peut dire, vous pouvez facilement voir en imagination le jardin devant la maison, le perron, la façade, vous pouvez passer la porte en imagination. Voir l'entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon, les chambres à l'étage. Et si vous voulez, vous pouvez de la même manière voir n'importe quel lieu, avec un grand niveau de détail. Nous avons la capacité de voir intérieurement les choses qui nous sont familières, mais qui ne sont pas présentes. et nous pouvons refaire le même exercice avec les autres sens intérieurs. Par exemple, si je vous parle de l'hymne national, vous pouvez probablement tous entendre cette mélodie jouer en vous, ou un autre air que vous aimez, ou la voix d'un être cher, votre père, votre mère, votre enfant. Nous sommes capables d'entendre cette voix à l'intérieur de nous, ou de respirer le parfum d'une rose, du pain tout juste sorti du four, ou de sentir la sensation de l'eau sur notre corps quand nous nageons, ou la chaleur du soleil sur notre peau, la sensation du chaud et du froid. Nous avons cette merveilleuse capacité, ce don de Dieu de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher les choses qui ne sont pas là. Et tout ça se passe à l'intérieur. Ce que Saint Ignace nous invite à faire, c'est de mettre à contribution cette capacité humaine que Dieu nous a donnée et de l'employer comme porte d'entrée, comme passerelle pour pénétrer dans la parole de Dieu. Par exemple, si je veux prier aujourd'hui, disons que j'en suis au chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu et que je lis le passage de la tempête. Je peux, si je le veux, réfléchir à la signification des mots. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ? Je peux réfléchir à ce que Jésus dit et fait, mais je peux aussi décider d'imaginer la scène, de contempler le texte, selon le terme de Saint Ignace. Je peux, en imagination, être là, dans la barque, avec les 12 apôtres, alors qu'ils quittent la rive dans la soirée, une soirée paisible. La nuit est tombée, et je suis là dans la barque, alors que le bateau s'éloigne lentement de la côte à la rame, jusqu'à ce que la voile soit montée. Je vois les apôtres qui s'installent dans la barque. Je vois Jésus endormi à côté du gouvernail. Et comme je continue à contempler ce passage en imagination, mais d'une manière très réaliste, j'entends le vent se lever, devenir plus fort. Je sens dans mon corps le bateau rouler et tanguer de plus en plus violemment. J'entends les vagues s'écraser sur la coque. Et je vois tout autour de moi. Je sens la peur des disciples. Je vois Jésus qui continue à dormir et je suis presque sur le point de dire avec les disciples « Seigneur, nous allons périr, sauve-nous !» Dans ce cas, ce que je fais, et je ressens le besoin de faire très attention à ce que je dis parce que nous parlons ici d'émotions vraiment sacrées, ce que nous avons fait, c'est de pénétrer dans la richesse d'un passage de l'Évangile grâce à notre imagination. Jésus n'est pas le produit de mon imagination, mais mon imagination mise à contribution dans la contemplation du texte, m'a aidé à m'approcher petit à petit de lui, à passer cette porte dont nous parlons, cette passerelle qui permet de le rencontrer, d'entrer en communication avec lui. Et c'est ça la base même de la contemplation. C'est aussi simple que cela. Donc, pour résumer, méditer signifie entrer dans la parole de Dieu par la réflexion sur le sens des mots du passage, et contempler signifie pénétrer dans un événement de l'Évangile en nous imaginant au milieu de cet événement, en y participant, en le voyant et en l'entendant se dérouler. Et les deux méthodes sont bonnes. Les deux conduisent au même résultat, c'est-à-dire que les deux amènent la richesse de la parole au niveau de notre cœur, pour que notre cœur commence alors à chercher Dieu, à le désirer et à vouloir lui parler. D'une certaine façon, c'est comme si on avait une maison avec deux portes. Cela n'a pas tellement d'importance, la porte que j'utilise, car elles conduisent exactement au même endroit, à la rencontre de la personne à l'intérieur que je suis venue voir, avec qui je veux avoir une conversation. C'est une manière de prier qui peut paraître vraiment surprenante à la plupart d'entre nous parce que nous sommes tellement habitués à utiliser des mots pour prier. Et l'idée de rester en silence et de permettre à notre imagination, à notre esprit, d'être complètement absorbé, ne cadre pas vraiment dans la définition de la prière telle qu'on l'a toujours pratiquée, ou tel qu'on nous l'a toujours enseigné. On se dit « ça ne peut pas être une prière ». En fait, on peut dire qu'il y a, de façon générale, deux sortes de prières, selon les auteurs religieux. La prière vocale et, par opposition, la prière mentale. La prière vocale est une très belle manière de prier, en utilisant des mots prédéfinis. Le Notre Père, par exemple. Le plus bel exemple, peut-être, puisque c'est Jésus lui-même qui nous a donné les mots. Et il y a beaucoup d'autres prières vocales, bien sûr. Le Credo, le « Je vous salue Marie », beaucoup, beaucoup de prières que les gens aiment et qui nous rapprochent vraiment de Dieu. Quand nous prions une prière vocale, nous prions en laissant notre esprit et notre cœur s'absorber dans la signification des mots. Et le cadeau des mots, c'est leur profondeur, la richesse de leur sens. Ils expriment des choses que nous voulons dire à Dieu et nous trouvons utiles que d'autres, au fil des siècles et de notre tradition chrétienne, aient été capables de formuler ce que notre cœur veut dire à Dieu, avec des mots qui nous aident à le dire. C'est une magnifique forme de prière. Et quand nous prions ainsi, il ne s'agit pas de marmonner des mots vides. La vraie prière vient quand notre cœur s'ouvre au sens des mots et que notre cœur exprime complètement le sens porté par ces mots. « Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » La prière arrive quand notre cœur prononce ces mots en profondeur pour le Père, pour Jésus, pour l'Esprit, pour Marie, pour celui que nous prions dans la communion des saints. C'est la prière vocale. Dans la prière mentale, par contre, et c'est de cela dont on parle ici, la méditation et la contemplation étant toutes les deux des formes de prière mentale, la dynamique est différente. Dans le cas de la prière mentale, il y a un point de départ. Et les Écritures sont un point de départ exceptionnel, mais bien d'autres sources peuvent aussi être utilisées, comme les écrits des saints, par exemple. Mais restons avec les Écritures, puisque c'est de cela dont nous parlons. Ce que nous faisons dans la prière mentale, c'est que nous prenons un passage plus ou moins long, comme la tempête, par exemple, ou la guérison du lépreux, ou une ou deux béatitudes, ou la guérison du paralytique descendu par le toit. Nous choisissons un passage particulier des Écritures, et nous nous donnons un certain temps pour prier. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure peut-être, selon le temps que nous avons, selon où nous en sommes personnellement dans notre vie spirituelle. Et cela peut être très différent d'une personne à l'autre, et ça peut changer avec le temps, bien sûr. Disons que nous voulons prier pendant 15 minutes à partir de la Bible. Et je vous rassure tout de suite, on va revenir là-dessus en grand détail par la suite. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste d'anticiper un petit peu pour vous donner un avant-goût de ce que nous allons développer, pour vous donner une première idée de ce que c'est pratiquement la méditation, de ce que c'est la contemplation. Et bien sûr, dans les conversations qui suivent, nous allons décortiquer les étapes et voir très concrètement comment les réaliser. L'objectif étant qu'à la fin de la série, nous les comprenions bien et encore plus que nous ayons une idée très claire de comment les utiliser dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Donc, pas d'inquiétude. Nous avons déjà un peu commencé dans l'exemple de la tempête, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Seulement quelques versets qui ne prennent pas longtemps à lire. Alors que mon cœur se plonge dans les versets, je commence à réfléchir, si je choisis de méditer. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Immédiatement, je me relis à tous les moments de ma vie où j'ai imploré ainsi le Seigneur. Sauve-moi, dans des moments de peur ou des moments difficiles de ma vie. Je repense à tous ces moments, et en même temps je commence à parler au Seigneur. Et j'entends Jésus me répondre, aujourd'hui, dans ma vie, telle que je la vis. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi j'ai peur? La barque est sur le point de couler. Et voilà, je suis engagée dans un cœur à cœur avec le Seigneur, tandis que je médite ces mots. Et vous vous rendez compte tout de suite que contrairement à la prière vocale, qui est guidée par la richesse des mots, ici il y a beaucoup de liberté. Une personne peut être attirée par un verset et une autre par un autre verset. Ou si on est dans la contemplation, attirée par un moment particulier de l'événement plutôt qu'un autre. C'est très personnel et chacun est guidé par le Saint-Esprit dans cette sorte de prière. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Je voudrais dire tout de suite que probablement que certains d'entre vous sentent déjà qu'ils sont plus attirés par l'approche basée sur le raisonnement, plus que par celle basée sur l'imagination, ou l'inverse. Ça aussi, c'est très personnel. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut changer dans le temps. Il n'y a pas de règle obligée. Les deux sont des passerelles, des portes d'entrée, comme nous l'avons dit. Et chacun de nous prie selon son attirance, l'attirance de son cœur, avec la grâce de Dieu en œuvre en nous. J'espère que vous commencez à entrevoir les possibilités, à entrevoir la place qu'on peut laisser à Dieu dans cette forme de prière, les surprises qu'on peut avoir dans cette rencontre. Et je voudrais d'ailleurs revenir là-dessus en citant encore une fois un passage de ce texte de Vatican II que nous avons déjà mentionné, la Divine Révélation. Au paragraphe 21, il est dit « Or la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, c'est nous tous, la solidité de leur foi, et qui d'entre nous n'a pas besoin de renforcer sa foi ?» La nourriture de leur âme, et qui n'a pas besoin de nourriture spirituelle dans notre monde actuel. La source pure et permanente de leur vie spirituelle. Pour n'importe qui d'entre nous qui veut croître dans la vie spirituelle, Comment pouvons-nous ne pas aller vers les Écritures qui nous donnent la solidité de notre foi, la nourriture de notre âme et la source pure et permanente de notre vie spirituelle? Et ce que fait saint Ignace en nous expliquant la méditation et la contemplation, c'est de nous aider à trouver une manière très simple, vraiment concrète et efficace de faire cela, de s'approcher de cette source de solidité spirituelle, de nourriture pour notre âme. Mais nous reviendrons là-dessus dans notre prochain épisode. Vous écoutiez Isabelle Rebel, qui avait le plaisir de partager avec vous, qui parlez français, le riche enseignement du père Timothy Gallagher sur la spiritualité ignatienne. Pour retrouver tous les entretiens originaux en anglais, rendez-vous sur le site www.discerninghearts.com. À la prochaine.